Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast J-20, donc on en est déjà à 10. Enfin non, c'est le 11e parce qu'en fait pour aller de 30 à 20 on compte 11 fois. Eh bien écoute, on est veille de course, donc j'enregistre ça tranquillement en début d'après-midi avant d'aller de prendre la voiture pour aller à Val Thorens parce que Tine Val Thorens, eh ben mon ami, c'est 2 heures de route. Putain, mais incroyable, quoi. Genre de Chambéry, en 2 heures de route, j'arrive quasiment dans le Forez, tu vois, direction Clermont-Ferrand. Tu vois un peu la traversée de la France que ça te fait, quand même, déjà. Et là, en 2 heures de route, en fait, je vais faire 30 bornes à vol d'oiseau, quoi. C'est une dinguerie, ces vallées. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai un peu que ça à faire, donc... Voilà, prendre tranquillement son mal en patience. Du coup, ce matin, bah, qu'est-ce que j'avais au programme? Simplement un petit déblocage léger. Alors, le coach a été assez évasif sur le plan d'entraînement, que tu peux consulter, hein, le Word est téléchargeable. Il a émis, voilà, déblocage 600D+. Alors, on va interpréter ça. Là, en fait, moi, je suis à Tine Val Claret, et il y a une bosse qui fait... 600 dénives, c'est la montée à Tauvière, ce qui est une piste de ski relativement raide. Et du coup, je suis parti dedans tranquille pendant 15 minutes. Après, j'ai fait 5 minutes, une marche vraiment tonique avec les bâtons, là j'étais très essoufflé. Je me suis reposé 5 minutes en continuant à monter. Et j'ai fait 5 fois 30-30 en ventilant de manière assez forte. Après, avec l'altitude, t'es quand même vite écrasé parce que je l'ai fait entre 2005 et 2006. Et écoute, bon, bah voilà, ça va, quoi, hein, c'est pas dramatique. Et puis après, j'avais tout un passage en crête pendant 2 bornes, et puis pendant 4 bornes, une redescente, voilà, jusqu'à Val Claret. Et là, j'ai fait 2 fois 2 minutes, un peu rapide en descente, mais en faisant attention de pas me péter la gueule quand même la veille de la course, c'est dommage. Une fois arrivé à la maison, eh bien, allez, une petite poignée d'eau lagineux, un petit carreau de chocolat noir, et on était parti pour une demi-heure de gainage. Alors là, j'ai fait beaucoup de gainage. Quelques pompes un peu dans tous les sens. 2-3 abdos, mais j'ai pas de tapis, alors ça me fait vite mal au dos. Et puis, mes exercices d'équilibre avec la balle de tennis, voilà, en se mettant sur un pied, en bougeant un peu. Et puis le repas, tu vois, classique. Bon, là, on est sur une... repas classique. J'ai chargé, hein, encore une fois. Flocon d'avoine, toujours. Là, j'ai fait mon petit tupperware pour ce soir. Le chef vous propose riz lentille, un petit peu de levure de bière dessus. Qu'est-ce que j'ai mis après? Et puis des petites betteraves cuites. Voilà. Truc assez digeste pour soir, léger. Voilà, Je ferai une collation comme d'habitude, mais un petit peu améliorée en glucides aussi, là, tout à l'heure dans la voiture à 16h30. Et puis, ouais, ce soir, pareil, je mangerai un petit dessert. Donc là, je te parle d'une banane, hein, calme-toi. 2 bananes pour enrichir un peu, voilà. Voilà, journée très cool. J'en profite pour faire les favoris de l'échappée belle, parce que je vais donner... J'anime toute la journée de la Sky Race du Rocher Blanc, donc ça c'est sûr et certain. Et le lendemain, je donne juste le départ pour dépanner le speaker du 85 km la traversée nord. Donc je me baffre 2 listes de favoris. Écoute, ça va être sympa, hein. Joli plateau sur les 2 courses. Donc je fais un petit peu ça, tranquillement, voilà, sur l'ordi, avant de décoller, comme ça c'est fait. Puisque, bah, vous le savez, après Valto, faut enchaîner lundi avec 10-12 heures de vélo. En fait, le plus chiant, ça va être de descendre de Tigne. Du coup, je vais essayer de partir avant 8h du mat, quand même. Et ici, ça caille. Hein. Franchement, avant 10h, ça caille. Donc bon, bah, je pense que je vais mettre du long, hein, tant pis. Et puis, bah, j'essaierai de tout faire tenir dans les poches. Ah, ouais, je sais ce que je vais... Je vais prendre 2 maillots, en fait, pour avoir 6 poches au lieu de 3. Mardi matin, je me repose, et en fait, mardi soir, de 18h à 2h du mat, je fais donc une sortie de 8h à pied, mi-jour, minuit. Donc pareil, ce sera la dernière fois, là, pour Ah non, attends, il est. Je crois qu'un peu plus tard, il y en a une autre qui va manger un peu la nuit. Mais bon. Alors qu'est-ce qui sera demandé là? On sera sur une extrême fatigue, parce qu'il y aura eu la course, plus les 10-12 heures de vélo. Donc on va adopter un rythme UTMB qui va concerner la partie refuge de Bertaud jusqu'à Trian, quoi, en gros. C'est-à-dire une allure relativement cool, hein, là, quasiment tout le monde peut suivre. Et donc pour demain, eh bien il y a un très joli plateau. Alors j'avais regardé l'an passé, c'est Nicolas Martin qui avait gagné en 3h57. Donc voilà, ça pose les bases. Il n'est pas là cette année, mais il y a Thibaut Garrivier qui est son sosie, ou presque, hein, puisque les deux hommes avaient livré une belle bataille au trail des passerelles du Monténard sur 65 km. Je crois qu'ils étaient séparés à l'arrivée de 2 ou 3 minutes. Il y a Julien Chaurier qui avait fait 4h15 l'an passé. Alors peut-être que je pourrais m'approcher de ces 4h15. Francesco Cucco qui court pas mal, s'il est souvent un peu sur la fraîcheur, donc même un 40 bornes, il va être assez bon. Louis Théron, qui est un jeune coureur, et 40 bornes, bah, c'est pas mal dans ses cordes. Alors 30 bornes, il est vraiment très très fort. Peut-être 40, il coincera un peu avec l'altitude, mais je le vois bien devant moi quand même. Richard Sumter, lui, il avait fait 5e, je crois, l'an passé. Donc c'est un bon coureur quand même, j'ai noté son nom du coup. Et Nicolas Algrin, qui est un très très bon coureur, un Dromois, et qui vient souvent sur quelques trails de montagne. Voilà, je dirais qu'entre 40 et 60 bornes, il est vraiment bon, et c'est un bon coureur régional que les gens connaissent pas forcément, parce qu'il fait des petites courses à droite à gauche, plus plaisir que feu des projecteurs, quoi, on va dire. Et voilà, ça nous fait demain donc 6 coureurs relativement fort. Bien sûr, Thibaut Garrivier en forme n'a pas vraiment d'adversaire. Mais il a fait un bon bloc là cette semaine pour préparer la CCC, donc peut-être sera-t-il un peu fatigué. Bon, j'en doute quand même. Voilà. Donc voilà pour demain, les forces en présence. Moi, l'objectif, alors la course est assez particulière. Déjà, tu pars de 2300 mètres d'altitude, donc tu souffres directement. Et tu montes à 2009. Ça, c'est le début. Donc certes, sur le papier, tu fais seulement 600 de D+, mais à ces altitudes-là, c'est vraiment très très dur. Et ensuite, en fait, t'as un profil vraiment bâtard, parce que pendant peut-être 20 ou 25 bornes, tu vas faire, entre guillemets, que descendre. Alors, évidemment, tu vas pas faire que descendre, mais t'as des petites remontées qui sont vraiment légères, je pense. La plus longue, elle doit faire à 200 de dénivelé encore. Et après, t'as des replats, des descentes, des replats, des descentes, etc., etc., etc. Donc en fait, la course, elle va vraiment se jouer peut-être plutôt à la fin, pour les écarts, hein, peut-être que les places seront déjà faites avant, mais pour les écarts. Puisque à la fin de la course, donc tu repasses au menhir, là c'est le point bas, 1800 je pense, et ensuite tu remontes, non pas à Valto, mais au-dessus de Valto, à 2009. Donc tu te fais un cavé au kilomètre à peu près 30, et après tu redescends sur Valto. Et ça va être vraiment le gros juge de paix, quoi. Donc, ça risque de partir assez fort dans la bosse. Et là, moi, je vais vraiment faire gaffe à mes sensations, parce que c'est ce que j'ai pu observer depuis 2 semaines que je suis en altitude. C'est quand même pas la même. Et je vais difficilement considérer l'adversaire. Je vais plutôt être à l'écoute de mes sensations. Alors après, si de manière confortable, j'arrive à en suivre un, bah, je serai content et je le ferai. Mais sinon, ce sera vraiment une gestion personnelle. Après, toute la partie qui va être vraiment rapide, quand on redescend, qu'on fait des replats, qu'on redescend, etc., ça va pas être trop à mon avantage. Donc là, je m'attends à perdre un peu de temps. Et puis peut-être, dans la dernière bosse, regagner quelques places ou un peu de temps sur les petits feux follets qui seront partis trop vite. Donc la course, elle démarre à 7h30. On peut la suivre sur Livetry. Ah, j'ai pas regardé combien il y avait de points de passage d'ailleurs, je vais regarder. Mais on peut la suivre sur Livetry, donc ça c'est pas mal. Et puis voilà, après, bah, Départ 7h30, idéalement une arrivée vers midi, une petite bière de récup, il y aura le stand Renard qui sera là-bas. Un bon repas de cochon, puisque le lundi on va faire 10 heures de vélo, passe privé, avec les amis. Une sieste. Les podiums à 15h, bah, soit pour encourager les potes, soit si vraiment ça veut sourire pour monter dessus. Et puis, une fois qu'on aura dit au revoir à tout ce beau monde, retour ici vers 18h pour se reposer, mais aussi préparer les affaires pour lundi. Puisque lundi, je me lève et je monte sur le vélo, en gros. Enfin, je déjeune, hein, bien sûr, mais ça va être assez rapide. Donc voilà, un week-end qui va s'accélérer. Pour l'instant, je suis en train de glander, mais ça va s'accélérer. Du coup, je peux prendre le temps de répondre à une des quelques questions qui m'ont été posées sur le Patreon. Avec Fred Delabrouille qui me demande les paires de chaussures que j'utilise à l'entraînement et si à l'UTMB je vais prendre des chaussures quasiment neuves. Et bah à l'entraînement, majoritairement je cours avec la Lone Peak de chez Altra parce que c'est celle qui me plaît le plus et c'est celle qui fait le taf sur quasiment l'intégralité des parcours. Après quand je suis vraiment très fatigué, je prends la Olympus pour les sorties longues. Ou des fois, je prends la Olympus quand... Alors là, je le fais pas, mais... Des fois, j'enchaîne un peu des petits footings, tu vois, en phase de prépa, ou pendant des cycles VMA et tout, et je vais courir beaucoup, en fait. Et là, à ce moment-là, je prends de temps en temps la Olympus, même sur un footing de 40 minutes, pour qu'il y ait moins d'impact sur mes articulations et tout. Mais sinon, ouais, Lone Peak dans son ensemble. Pareil, mais ça, c'est plutôt l'hiver, quand j'ai des exos, tu vois, des exos de 1h, 1h30... Un peu court, soit c'est de la PMA en côte, soit c'est du seuil, des choses comme ça. Là, bah, je vais prendre la supérieure pour vraiment sentir le terrain et être le plus vif possible parce que c'est un exercice court. Bah, sinon, quasiment Lone Peak quoi, tout le temps. Après, sur la route, bah, tant que c'est un peu promenade, je prends la Rivera. Et puis après, dès qu'il y a du tempo, je prends la Kayenta. Donc quand je dois faire des séries à 15, 16, 17 km/h. Alors la Kayenta, ils la produisent plus, Altra, mais c'est pas grave, parce que vu que c'est une chaussure de route, bah elle s'abîme quasiment jamais. Et dans le pire des cas, j'ai un deuxième modèle neuf qui m'attend au garage. Et ensuite, si vraiment on va faire de la VMA sur stade, un truc vraiment rapide, vraiment violent, là je vais prendre la Vanish. Voilà. Ça c'est pareil, ils la font plus, mais j'en ai une paire neuve au garage, donc tout va bien. Voilà un petit peu pour mes chaussures à l'entraînement, donc tu vois, ça tourne avec 5 ou 6 modèles, mais vraiment, il y en a qu'un seul que je mets souvent. Bon, j'ai une paire de taurines aussi qui traîne au garage, que je mets de temps en temps peut-être sur route. Ma paire de taurines, j'ai dû l'avoir en 2018, quoi. Elle est toujours là. Elle est stockée sur une des armoires, et quand j'en ai besoin, j'utilise. Les Lone Peak, pareil, elles doivent dater de 2019, alors j'ai aussi des nouveaux modèles de cette année. Mais justement, et j'en viens à la suite de sa question, les nouveaux modèles, alors j'en ai amené un quand même là à Tignes pour que vraiment je sois bien ok avec, hein, même si j'utilise depuis mars. Je les aurai pour l'UTMB. Et là, oui, je vais prendre des chaussures quasi neuves. Par exemple, la Lone Peak que je vais avoir au départ de l'UTMB, elle aura pas 100 bornes. Elle aura pas 100 bornes. Et la Olympus que je vais avoir pour l'UTMB, et ben là en fait on est face à un problème. Parce que celle que j'ai, elle est un peu usée. Et ça me fait souci. J'en ai redemandé une à Altra. Et ils m'ont envoyé une Lone Peak à la place. Je viens de leur répondre ce matin que c'était très gentil, mais que c'était pas la bonne. Et du coup, je ne sais pas si j'aurai une Olympus pour l'UTMB. Et ça peut être embêtant. Mais bah dans le pire des cas, j'ai ma Olympus usée, mais voilà, ça me fait un peu souci. Non, mais comme d'habitude, c'est des anges chez Altra. Et quand je vais arriver sur le salon, il y aura une Olympus en taille 40 qui va m'attendre. Mais bon, ça a couillé, ouais. Ils voulaient m'envoyer une Olympus, ils m'ont envoyé une Lone Peak, tu vois. C'est dommage, hein. C'est les aléas du... Bah ouais, tant pis. Bon, ça va se résoudre, j'ai confiance. En 2019, c'était un peu pareil, je crois que... je voulais partir avec des lone picks. Et en fait, il y avait eu une couille dans le potage. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ah, je crois que j'avais reçu, en fait, au lieu de recevoir mon modèle début août pour me faire un peu avec et venir à l'UTMB avec, il s'était gouré, j'avais reçu mon modèle femme. Et en fait, il est un tout petit peu différent, le modèle femme, et ça me serrait un tout petit peu plus, donc j'avais psychoté un peu à cause de ça. Mais pareil, je suis arrivé sur le salon de l'UTMB en début de semaine, ils m'ont dit, tiens là, hop, la paire de Lone Peak, c'est bon. Et j'ai fait deux footings avec, et après, tu prends le départ, et tout va bien. Donc, sur l'UTMB, j'ai des chaussures qui sont quasiment neuves. Si tu veux, je les ai utilisées, on va dire, deux ou trois fois, histoire de dire que, oui, c'est bon, elles n'avaient pas un défaut. Et après, banzai, hein, c'est le départ. Le mythe de la chaussure neuve, en fait, c'est une énorme connerie. Si quand vous achetez une chaussure neuve et que vous sentez une gêne, ben c'est qu'en fait la chaussure elle vous va pas. Alors après oui, plus vous allez courir avec votre chaussure de merde là, bah plus elle va se faire à votre pied parce que vous allez l'écraser sans arrêt, le lassage il va un peu se... Mais en fait c'est parce que vous allez abîmer la chaussure pour qu'elle convienne à votre pied. Tandis que moi quand j'enfile une paire de Lone Peak, bah je me pose pas la question. En fait ça va quoi, tout de suite. Juste une sortie à faire avec pour le lassage parce que je le resserre souvent sur le devant du pied, je le desserre un peu au milieu du pied et par contre je le resserre pas mal sur le coup de pied. Ouais. Ce qui fait que j'ai... Puis les chaussures sont vraiment faites à mon pied donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un chausse-pied pour les enfiler correctement sinon on se tortille dans tous les sens, ça prend 15 ans, ça sert à rien. Allez, une deuxième question d'Antoine Renaudino, qui me l'a posée sur Patreon, puisque c'est uniquement là où je dépose le podcast. Antoine me fait remarquer, me demande avec quelle tenue je vais prendre le départ de l'UTMB. Ça, c'est une question, Antoine, qui est un peu idiote, parce que, en fait, tant que tu connais pas la météo, t'as plus de chances de répondre une connerie qu'autre chose. Alors après... Dans tous les cas, moi, je vais prendre tous mes vêtements avec moi. Enfin, tu vois, des vêtements pour le chaud, des vêtements pour le froid, etc. Et deux ou trois jours avant, bah, on aura une idée un peu plus précise de la météo. Donc, s'il fait relativement bon, comme en 2019, bah là, c'est facile, hein. Short, t-shirt. Et s'il fait mauvais, comme en 2018, bah là, ça va être short, pull, le buff, les gants à portée de main, et la casquette vissée sur la tête. Après, ça, tu vois, c'est pour les départs à Chamonix, à moins que on parte sous des trombes d'eau. Disons que ça, c'est deux tenues qui vont convenir à peu près à toutes les météos. Après, ce que je fais, en fait, c'est que pendant la course, j'ai toujours, quoi qu'il arrive, hein, parce que même si la météo elle est annoncée belle, il peut toujours y avoir un petit nuage de merde accroché en haut d'un col. J'ai toujours dans mon sac la veste de pluie qui, en fait, je la mets en dernier dans mon sac. Elle va être vraiment sur le dessus du sac. Et je vais un tout petit peu faire dépasser une manche. Et après, hop, je zippe le sac et je ferme. Du coup, quand j'ai envie de mettre ma veste de pluie, en fait, je mets la main dans mon dos. Et je descends un peu la fermeture éclair. Et je tire sur la manche de la veste qui pendouillait. Et comme ça, j'attrape ma veste en 2-2. Après, je referme la fermeture éclair et voilà. Alors après, évidemment, c'est un tout petit peu plus chiant hein, pour remettre la veste dans le sac. Bon, bah là, je suis obligé de m'arrêter, d'enlever le sac, etc. Mais en tout cas, pour la mettre, au moins, ça va vite. Ce qui fait que t'attrapes pas trop froid parce que tu te retiens pas de mettre la veste, tu la mets tout de suite, quoi. Qu'est-ce qu'il me disait, Antoine? Ouais, après, tu vois, en termes de chaussettes, bah, j'ai toujours les Appalaches de la chaussette de France. Du coup, j'en ai, disons, 4 paires parce que... En fait, la personne qui me fait l'assistance à Courmayeur, au Contamine, à Courmayeur, à Champais, à Trian et à Valorcine, on a le droit qu'à 5 points d'assistance. Eh ben, elle va toujours me proposer une paire de chaussettes neuves. À Courmayeur, je vais changer, c'est sûr. Et peut-être à Champais ou Trian, je pense que je vais changer cette année aussi. Là, en fait... J'enlève tout, la chaussure, la chaussette, je passe une petite lingette désinfectante sur le pied. Voilà, ça enlève un peu la sueur, un peu la boue, tu sais, qui est quand même passée à travers. Et je repars nickel, tu vois. Je mets un petit coup de noc et je repars nickel. C'est vraiment les pieds qui me font chier. sur Ultra, enfin je pense un peu tout le monde, c'est l'échauffement des pieds à force de courir, de taper pendant 24 heures. Donc ça va être nickel. Après le short, bah, je le change jamais. À voir si on a une édition où il pleut vraiment beaucoup, mais en 2018 je l'avais pas changé. Le t-shirt, je le change jamais aussi, je l'avais pas changé en 2018. Après, bah, j'ai toujours un petit pull ou t-shirt de rechange aussi dans le sac d'assistance. Voilà, je m'interdis pas de le faire. Le buff, bon bah on change pas le buff. Et les gants, en fait moi j'ai les gants fins Brombeck qui sont en tissu, qui sont un peu passe-partout, tu vois. Et si vraiment il fait froid parce qu'il y a un peu de vent, parce que il y a un peu de pluie, je mets les Salomon Bonatti par-dessus qui ressemblent un peu à une capote, tu sais, c'est vraiment un bout de plastique, hein. Bon, qu'on vend 25 euros, mais c'est un bout de plastique. J'y mets par-dessus, ça coupe totalement du froid. Après, la casquette, bah, je l'aurai. S'il fait chaud, ça sert à la mouiller dans les ruisseaux et à la mettre sur la tête. Et s'il fait froid, bah, en cas de pluie ou de brume, avec la visière, on est quand même un peu plus tranquille. Et puis, la frontale tient super bien sur la casquette. Alors, je sais pas pourquoi, elle doit se coincer un peu sur les bords, là. Ça tient nickel. Et après, au niveau des collants, bah évidemment j'en ai un, c'est le matos obligatoire, mais j'en ai jamais eu besoin, donc au pire il est dans le sac. Voilà. Au niveau des fringues, alors si tu veux qu'on soit plus précis, Antoine, bah là par contre il va falloir attendre vraiment la veille ou l'avant-veille, parce que tant que j'ai pas la météo, tu vois, je pourrais pas te préciser ça. S'il fait froid, c'est possible qu'au départ j'ai les manchettes au bout des poignets pour pouvoir les mettre en haut du délivret. S'il fait très chaud, bah, c'est possible que je sois en débardeur, mais que je prévois la nuit d'enfiler une petite veste coupe-vent, parce que malgré qu'il fasse chaud la journée, il fera quand même 15 degrés de moins la nuit, etc., etc. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui font que tout peut changer, quoi. Donc en fait, ce que je fais quand je prends la voiture pour aller à l'UTMB, moi je prends un très gros sac, avec vraiment beaucoup de vêtements, pour être un peu prêt à tout, quoi, prêt à affiner. Mais quand je prendrai la voiture, ce sera mercredi, on va savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc j'aurai déjà une belle présélection de mes affaires. Et c'est vraiment vendredi matin, juste avant l'UTMB, où là on sera quasiment sûr et certain de la météo, et on pourra vraiment définir la tenue adéquate au slip près. Et puis Antoine me demandait aussi, alors Antoine, je ne sais pas si tu fais des ultras, mais il me demandait si en fin d'ultra, on essayait un peu de jouer la place, ou plutôt le chrono, ou... Mais en fait, en fin d'ultra, t'essayes une seule chose. C'est de franchir la ligne d'arrivée. Il n'y a pas de stratégie, hein. Il n'y en a aucune. Hein. Ni de gestion, ça c'est de la flûte. Hein. Il n'y a qu'en vélo où tu peux te mettre dans la roue des autres et faire de la stratégie pour éventuellement le doubler à la fin. En trail, bah, t'es en souffrance, tu vois. Tu passes champé, il n'y a personne qui est là, qui sourit, qui trottine agréablement. Non, non, tout le monde est en souffrance, renfrogné. Ou alors ceux qui passent en souriant et qui sont pas très très fatigués, c'est parce qu'ils sont allés tellement doucement au début que ouais, ils ont rien senti, mais niveau classement, bah ils sont dans les abysses, quoi. Hein, dans les abysses. Et du coup, sur la fin, bah t'es tellement cramé qu'en fait t'essayes juste d'avancer le plus vite possible pour passer la ligne d'arrivée. S'il y a 5 mecs qui te doublent, bah qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas raccélérer. Puisque s'ils t'ont doublé, c'est parce que t'étais fatigué. Donc c'est pas parce qu'ils te doublent que tu vas relancer et que tu vas les redoubler. Ou alors, cette stratégie idiote et puérile va durer 10 minutes avec un petit effort mental. Ah, 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 je reprends ma place. Et derrière, PAN ! Le deuxième retour de bâton. Tah ! Et là, t'en as 5 autres qui vont te doubler, peut-être. Donc, et puis pareil, viser un chrono. Si d'un coup, tu vois que t'es en retard d'une heure sur tes prévisions aux deux tiers de la course et que tu t'excites pour faire mieux, bah, t'as quand même pas mal de chances d'aller dans le mur. Sauf si vraiment tu t'es branlé de manière extrême au début. Mais là déjà, bah, je considère que t'es quand même pas trop un compétiteur. Donc ça sert à rien de penser à un chrono, quoi. Si on est là pour faire une randonnée, quelqu'un qui n'est pas parti en étant un peu à la bagarre, c'est pas la peine derrière d'épiloguer sur une quelconque performance. Il l'a raté. Dès le coup d'envoi, faut être présent. Faut être à l'allure cible, etc., etc. Un ultra, c'est pas au bout d'un moment, je me réveille et j'accélère. C'est chaque minute, chaque seconde, faut faire bien les choses, en fait. C'est la victoire du long terme. C'est le mec qui aura bien fait du début à la fin. C'est pas le gars qui sera parti doucement pendant 20 heures et qui aura accéléré pendant 4 heures. Non, bah non, ça n'existe pas, ça. Enfin, en tout cas, il sera pas devant, quoi. Et puis, il fera même pas son meilleur temps. Donc, jouer la place. Bah, évidemment. Quand t'es, je sais pas, 25e et quelqu'un de double, ça te fait chier, tu passes 26e. Mais si double, c'est parce que t'arrivais pas à aller plus vite. Ouais, t'essayes bien de jouer la place, mais en fait, tu peux pas, quoi. C'est ton corps qui te dit. C'est ton corps qui te dit, hein. Donc, quand t'as un groupe de 3 qui te double, bah, t'es deg, hein, mais il te double quand même. Et jouer le chrono, bah, c'est pareil. T'es sur tes temps de passage, puis va savoir pourquoi. Ça part un peu en couille, mais toi, t'y peux rien, hein. Tu fais de ton mieux à l'instant présent, donc, bah, voilà, c'est tout, hein. Tu joues un chrono, mais au final, bah, c'est bien tes jambes qui avancent, donc elles vont pas se mettre à... Si ça fait 6 heures que t'es pas bien, il y a quand même très peu de raisons pour que t'ailles mieux. Alors, sauf si t'as fait une fringale. C'est vrai que pendant 2-3 heures, tu vas avoir du mal à t'en remettre, parce que tu vas manger, il va falloir assimiler un peu ça. Et après, c'est vrai que tu peux repartir un peu fort. Mais si t'as pas eu de soucis particuliers, tu vas avoir un effort qui va être relativement linéaire. Alors, les 6 premières heures de course, tu vas être un peu plus rapide, parce que... Tu sais, tu as cette énergie élastique du début que tu n'auras pas à la fin. Et puis à la fin, tu auras la fatigue de la nuit passée dehors qui va aussi jouer. Donc tu as une dégradation de la vitesse, mais néanmoins, elle reste assez linéaire tout au long de la course. Donc voilà, Antoine, en fait, tu vois, sur Ultra, finalement, tu peux pas trop t'occuper des autres parce que si tu vas trop doucement pour suivre un tel ou un tel, bah c'est pas bien, hein, tu perds du temps pour le chrono final. Et si tu vas trop vite, parce que tu veux suivre un tel ou un tel, bah c'est pas bien non plus, parce que tu te mets en danger, et tu vas exploser, et le payer plus tard, et perdre deux fois plus de temps, quoi. Donc au final, il faut adopter le rythme qui te semble dur, mais confortable, c'est-à-dire que tu sens que t'es quand même pas à l'entraînement, en train de faire une ronde de course, mais tu sens que tu peux faire durer l'effort, quoi. Tu te dis pas, putain, dans 5 minutes, il faut que je baisse de régime pour souffler. Ça, quand tu te dis ça, c'est que tu vas trop vite, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment une écoute des sensations personnelles. Et une habitude aussi. C'est pour ça qu'on fait des longues sorties en montagne en prépa. Pourquoi j'ai fait une sortie longue de 12 heures? Franchement, physiologiquement, ça allait m'apporter quoi? Bah rien du tout. Parce que j'aurais fait 6 heures, ça aurait été pareil. 8 heures. Là, 12 heures. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis parti à la journée. Parce que bah, du coup, ça m'a permis de me rendre compte un petit peu tout au long de la journée du rythme que j'avais. Et c'est un rythme qui va ressembler, bon, c'était pas le même terrain, mais c'est un rythme qui va ressembler à l'UTMB. Un rythme de gestion où tu sens que tu peux continuer à y aller. Alors au bout des 12 heures, j'étais très fatigué, j'avais très faim parce que j'ai pas fait les mêmes ravitaillements que j'aurais sur l'UTMB. Mais néanmoins, cette sortie longue à la journée, en fait, elle m'a appris le pacing, tu vois, l'allure de la course. Celle que j'aurais. Ça m'a donné un peu d'habitude. Et c'est pour ça aussi que des fois j'ai du mal avec certains qui ont des plans d'entraînement où la plus longue sortie elle fait 2 heures. Parce que bah en fait le jour J, vous allez être un débutant. Vu que vous n'aurez jamais fait votre sortie longue, bah vous allez être un débutant. Alors oui, je suis d'accord, en 2 heures, physiologiquement, on bosse des qualités d'endurance égales à si je fais 4 ou 6 heures, je sais pas. Mais en fait, à un moment donné, il y a une capacité à développer en ultra-trail qui s'appelle peut-être pas la résilience, mais. La capacité à se mouvoir relativement vite, longtemps dehors. Et ça, bah, si tu l'as pas fait une fois, t'es un débutant. C'est tout. Donc il faut le faire une fois, deux fois, trois fois pour bien s'en rendre compte. Donc voilà aussi pourquoi lundi je vais faire 10-12 heures de vélo lors de la course. Ça, physiologiquement, n'importe quel entraîneur te dirait que ça sert à rien. Ça va juste être de la fatigue. Oui, d'accord. Mais je vais partir faire un tour de vélo en étant très fatigué de la veille. Et du coup, ça va simuler un peu l'état que j'aurai à l'UTMB. Bon, par contre, dans la fatigue, je vais pas non plus aller super loin, parce que j'aurai quand même fait une nuit de sommeil, je vais partir après mon petit déjeuner, de manière confortable, etc. Mais je vais passer 10 à 12 heures sur mon vélo, dehors, à une allure relativement lente, pour essayer de faire de mon mieux, mais en arrivant à la fin en bonne santé, quoi, sans m'arrêter au pied de la montée de Tignes, en appelant une bagnole, etc. Et pareil, le lendemain, je pars faire 8 heures de trail. C'est totalement inutile, ça va développer aucune de mes qualités physiologiques, mais ça va m'apprendre le rythme de la course à évoluer sur sentier en étant très fatigué. Bah évidemment, derrière, 3 jours de repos complet, et puis même après, ça va être assez léger. Donc voilà un petit peu en fait en ultra comment ça se fait, hein. C'est pas vraiment comme les gens qui disent, tu sais, tu regardes la start list puis tu vises une place. Bon bah là t'as déjà raté la course, tu vois. Parce que bah il y a peut-être 50 mecs meilleurs que toi. Donc là si on regarde les cotes ITRA, je crois que j'ai la 70e cote ITRA. Bon maintenant je t'apprends rien en te disant que je vais pas finir 70e. En 2018 c'était mon premier ultra et j'ai fait 29e. En 2019 j'ai subi une grosse déshydratation, j'ai subi une fringale, tout ce que tu veux, j'ai quand même fait 32e. Bah voilà, là même s'il y a 70 cotes ITRA qui sont meilleurs que moi, déjà ça fait rigoler, il y en a tu sais, ils ont une grosse cote ITRA parce qu'ils sont forts sur les marathons. Et tu regardes leur palmarès et tu vois qu'ils sont. Qu'ils n'ont pas fait d'ultra en fait. Bon, lui, déjà, sa capacité à passer la ligne d'arrivée est fortement réduite. Comme notre petit chinois, hein, tout le monde disait ouais, il va vite, il va vite. Ouais, bah il a mis 35 heures quoi. Donc c'est nul. Bon, après, faut se méfier, il peut progresser. D'ailleurs, il est encore au départ le salaud. Il s'en tête. Minky. Allez, on fera un tour d'horizon des favoris plus tard. En attendant, là, bah, je vais te laisser pour aujourd'hui. Je vais prendre la tuture pour aller à Val Thorens, récupérer le dossard et glander toute la soirée en attendant la course. Salut, à demain!